Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de ces marques françaises qui sont dans la tourmente. Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, comment ça va ?
Ça va, merci. On le disait en off avant le lancement de l'enregistrement. Sujet complexe.
Ouais, il y a des épisodes où tu as plus envie de te lancer dedans que d'autres. Et là, ça va être sympathique. Hein. On a fait un joli travail de décryptage autour de ce qui se passe actuellement entre les marques françaises et le président ukrainien pour essayer de comprendre quel est le rôle aussi des réseaux sociaux au milieu de tout ça. Mais voilà, sujet un petit peu moins fun, néanmoins, je pense. Nécessaire.
Ouais, ce qui est sûr, c'est que cette guerre en Ukraine, avec tout ce qu'elle a de terrible, elle a aussi, je dirais, un additionnel exceptionnel, c'est que c'est une guerre de communication qui se passe notamment sur réseaux sociaux, avec un personnage central, on en a déjà parlé ici dans le Super Daily, qui s'appelle Volodymyr Zelensky, qui est le président de l'Ukraine et qui effectivement œuvre depuis maintenant plusieurs semaines pour faire en sorte que ce sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste en haut des sujets d'actualité.
Ouais, ça c'est sûr. On a déjà parlé dans l'épisode qu'on avait fait sur la guerre en Ukraine. Il y a une chose qui est primordiale pour lui, c'est de montrer à travers même ses réseaux sociaux hein, parfois cette guerre en Ukraine. C'est la première fois peut-être qu'on a une guerre qui se passe autant en direct via les réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on avait montré dans ce dernier épisode, que ce soit sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Et du coup, on a des acteurs très forts de cette guerre qui prennent la parole, dont Volodymyr Zelensky, qui est quand même le président ukrainien. Et on le sait, une guerre, elle se joue aussi en termes de communication, de qu'est-ce qu'on renvoie au reste du monde pendant cette guerre, quel camp on est dans cette guerre. Est-ce qu'on est les méchants, est-ce qu'on est les gentils, etc. Il y a tout un storytelling de la guerre à raconter sur les réseaux et Volodymyr Zelensky, il l'a très bien compris. Il le fait très bien. C'est un très bon communicant et il le fait encore plus ces derniers temps en allant directement invectiver des marques suisses, françaises, étrangères qui continuent de travailler avec la Russie. Pour lui, tu as raison. Le but premier de cette manœuvre-là, c'est d'abord et surtout de faire remonter le sujet de la guerre en Ukraine tout en haut du top des chaînes d'infos continues, des journaux en France, etc. Quand il vient invectiver Renault ou une autre marque française, c'est pour qu'ici, en France, on continue à parler de la guerre en Ukraine.
Et c'est que l'opinion publique s'empare du sujet.
Exactement.
Et c'est très intéressant et c'est assez inédit hein, comme manière de procéder. Premier mouvement, alors il y en a eu d'autres, mais qui est plus proche de nous, c'est peut-être Nestlé, hein, la manière dont Volodymyr Zelensky, semaine dernière, est venu s'adresser directement aux politiques suisses en leur disant on a un problème avec Nestlé, vous avez un problème avec Nestlé.
Ouais, ultra intéressant, on le sait, hein, pour compléter juste ce qu'on disait avant, on sait qu'avec notamment avec les chaînes d'info continues, l'info tourne très vite. La guerre en Ukraine, très rapidement, ça peut passer sous autre chose, notamment en France, on a les élections présidentielles qui arrivent, on a d'autres sujets aussi peut-être nationaux qui prendront le dessus. Donc pour lui, c'est très important de garder ce côté numéro un dans l'info et visibilité à l'étranger pour toucher l'opinion publique, comme tu le disais. Et son premier pas, ça a été le groupe Nestlé. Le 19 mars dernier, Volodymyr Zelensky s'est adressé au peuple suisse. Lors de cette il a directement pointé du doigt le géant de l'agroalimentaire Nestlé dans des mots très durs. Bonne nourriture, bonne vie, c'est le slogan de Nestlé. Votre entreprise refuse de quitter la Russie, même après qu'elle a menacé d'autres pays européens. C'est avec ces mots que le président ukrainien a dénoncé le fait que la marque continue, la marque Nestlé, hein, les marques du groupe Nestlé, parce que c'est un groupe, attention, continue d'alimenter le marché russe avec certains produits essentiels, comme la nourriture pour bébé, par exemple, ou les céréales. Ce qui est intéressant, c'est que les propos de Volodymyr Zelensky sont scrutés dans le monde entier. Donc, quand il prend position comme ça face à Nestlé, qu'il pointe du doigt la marque en la citant directement, c'est un petit peu repris partout dans le monde et ça réveille un peu toutes les communautés après sur les réseaux. On le verra
bien
plus tard.
Bien sûr. Et là, ce qu'il y a de compliqué, on va parler, il a fait la même chose hein, avec les marques françaises hein, dernièrement. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'habituellement, les marques ne font pas de politique. S'il y a bien une règle numéro un en marketing, c'est ne jamais faire de politique. Vous verrez très rarement, on le sait, évidemment, depuis quelques années, les choses ont bougé, mais sur des sujets sociétaux, oui, pas sur des sujets géopolitiques. Voilà. Et c'est peut-être ça qui est nouveau. Hein.
Tu vois, j'ai un exemple à donner que je glisse au milieu, là, comme ça, de l'épisode. Mais Puma a pris, par exemple, position pour l'Ukraine officiellement et a communiqué dessus et a perdu des sponsors, des personnalités publiques qui étaient sponsorisées par Puma sont retirés en reprochant à Puma de prendre position.
D'avoir un parti pris. Voilà, là, tu penses à Booba.
Exactement.
Eh bien, ça, c'était côté Suisse, mais même chose hein, côté France, puisque ce mercredi, devant l'Assemblée nationale et le Sénat, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est exprimé en direct face à nos dirigeants, on va dire. Il s'est exprimé au sujet de la guerre en Ukraine, évidemment, et il a notamment demandé aux marques françaises qui sont encore implantées en Russie de se retirer dans un style très direct, hein, qui est le style du président ukrainien. Il a cité Auchan, Renault, Décathlon, Leroy Merlin, hein, je veux dire, ce sont des figures de proue aujourd'hui de l'économie française, sans doute des licornes aussi françaises, et il les a accusés, attention, les mots sont violents, hein, de financer les meurtres d'enfants et de femmes. C'est brutal, c'est violent, et forcément, eh bien, répercussions en cascade.
Ouais, il leur a directement dit, vous êtes le sponsor de la machine de guerre de la Russie, c'est quand même très très violent. Pour ça, il sait bien choisir ses mots, Zelensky. Alors, pour faire un petit état des lieux de ce qui se passait à ce moment-là pour des marques françaises. Il y avait le groupe automobile Renault hein, avec la marque russe Lada qui continuait de produire beaucoup de voitures en Russie. C'était pour eux, c'est tout simplement, après, il faut se rendre compte aussi économiquement, Renault, c'est tout simplement son deuxième marché mondial, hein, la Russie, donc c'est énorme.
45 000 personnes employées par Renault en Russie, voilà. 500 000 véhicules assemblés chaque année. Hein.
C'est énorme. D'un autre côté, on avait des géants comme Auchan, Bonduelle, Danone, qui eux communiquaient carrément, du coup, ils avaient choisi au début de communiquer sur le fait de remplir leurs devoirs alimentaires et de continuer d'exporter des denrées pour éviter les pénuries. Donc eux, ils avaient fait ce choix-là de communication avant que Zelensky prenne la parole. Et puis, comme tu le disais, il y avait d'autres marques comme Leroy Merlin ou Decathlon qui étaient aussi dans la ligne de mire. En tout, c'est quand même conséquent. C'est plus de 700 entreprises françaises qui sont implantées en Russie. Donc là, on cite des grosses marques, mais il n'y a pas que ces grosses marques. Il y a tout un pan de l'économie française qui est tourné aussi vers la Russie, qui est un partenaire commercial depuis de nombreuses années. Et notamment, dans ces 700 entreprises, il y a quand même 35 groupes du CAC 40 qui sont les plus grosses entreprises françaises. Donc ces 35 groupes, c'est énorme à continuer mercredi dernier encore à travailler avec la Russie. Les seuls qui sont vraiment sortis très vite du sujet, c'est les marques de luxe qui avaient peut-être plus de facilité à le faire vis-à-vis de leur propre marché. Et on a retrouvé des marques comme LVMH, Chanel ou Hermès qui sont très rapidement sortis du marché russe dès début du mois de mars. C'est assez intéressant. De toute façon, une fois que Zelensky avait attaqué Nestlé frontalement, on sentait que forcément, il allait continuer.
Évidemment, tout ça est très complexe. Hein. Ce matin, vous attendez pas à ce qu'on décrypte au-delà des réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, hein, c'est que le Leroy Merlin est présent en Russie massivement. C'est 107 hypermarchés, le Leroy Merlin, ce qui représente 36 000 salariés. C'est vrai que moi, c'est une info que je n'avais pas. Et puis pour Decathlon, pareil, hein, la Russie, c'est son sixième marché international, donc c'est un gros business, on va dire, hein, ça représente 2500 salariés dans 60 magasins, donc effectivement on parle pas d'un petit magasin de centre-ville, on parle de grosses présences de marques. Hein. Alors première réaction en cascade, on va dire Renault qui a été pointé du doigt par le président ukrainien et qui lui, face au poids, on va dire, de l'opinion publique, hein, face au poids de la médiatisation et notamment sur les réseaux sociaux de ce sujet, a décidé de mettre fin littéralement à ses activités en Russie.
Ouais, Renault était le premier à agir dès le lendemain.
Dès
le lendemain, Renault a directement expliqué qu'il se retirait du marché russe. Pareil, hein, vu l'ampleur de la situation pour Renault là-bas, quand même hâte de voir aussi quelle forme tout ça va prendre, en combien de temps ça prend, parce que c'est pas...
Ils ont fermé les usines, ça y est. Direct. Par exemple, l'usine de Moscou, elle a été fermée du jour au lendemain. Hein.
Ouais, c'est assez fou.
Donc là, on parle de 45... Là où je dis que c'est complexe, c'est qu'on parle de 45 000 russes qui se retrouvent au chômage du jour au lendemain. Donc, c'est quand même pas rien.
Bah, après, là-dessus, Vladimir Poutine avait déjà communiqué en disant que de toute façon, il nationaliserait les usines qui fermeraient et il continuerait la production sous l'étendard russe, quoi. Grosso modo. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je suis allé voir aussi ce matin un petit peu ce qui se passait sur les réseaux de Renault depuis quelques temps, sur les réseaux sociaux de Renault. Et je pense que c'est aussi un des angles qu'il faut essayer de voir pour comprendre les décisions des entreprises. Et sur les réseaux sociaux, bah, Renault, ça fait plusieurs semaines là qu'il y a beaucoup de commentaires masqués. Et on se doute que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui leur parlent de l'Ukraine et de la Russie, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook d'ailleurs. Et puis, on retrouve aussi on retrouve en fait quand même, malgré tout, quelques commentaires. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a des commentaires masqués. Déjà, on voit qu'il y a 140 commentaires et on peut en voir que 10.
Qui sont passés au milieu des filtres, on va dire.
C'est ça. Et en fait, là, le grand jeu, si je peux employer ce mot, c'est d'arriver à trouver quels sont les mots, quels sont les émoticônes qui passeraient à travers les filtres installés par les modérateurs de Renault sur les réseaux sociaux pour pouvoir arriver à ressortir. Et du coup, ce matin, il y avait quelques commentaires avec des drapeaux ukrainiens, avec voilà. Donc, on sent qu'il y a tout un impact des réseaux sur les marques. Et là, je pense que c'est un sujet qui est ultra intéressant. Par contre, c'est l'impact des réseaux sociaux, des communautés sur les réseaux sociaux auprès des marques.
Ouais, c'est là, on parle de Renault. Donc, Renault a pris une décision immédiate. De son côté, la famille Mullier, puisqu'on va parler de la famille Mullier, elle annonce, elle, souhaiter conserver ses activités en Russie. Pourquoi je parle de la famille Mullier? Peut-être que vous ne connaissez pas la famille Mullier. La famille Mullier, c'est le groupe familial qui détient Auchan, Leroy Merlin, Decathlon. Tout ça est entre les mains d'un même groupe familial qui s'appelle les Mullier. Et pour l'instant, le groupe ne s'est pas exprimé directement. Alors, il semblerait, je suis tombé sur des articles qui parlent de communication en interne, expliquant avoir fait le choix de ne pas quitter la Russie afin de continuer à verser des salaires et fournir de l'alimentation. Donc ça, c'est communication interne, on va dire. Mais en externe, pas de communication. Et du coup, après les communiqués de presse de Renault ou après les non-communications de famille Mullier, bah, nous, on pense forcément aux équipes community management, aux équipes CM qui se retrouvent seules en première ligne. Oui, tu veux dire un truc?
Non, il y a deux choses en plus là-dessus. On va parler après plus précisément des réseaux sociaux, mais il y a aussi les principes de groupe qui sont assez compliqué à gérer aussi à l'intérieur de... Parce que souvent, ces marques-là font partie d'un groupe plus grand.
Oui, t'as raison.
Et du coup, bah, quand on se retrouve avec un groupe comme Nestlé, par exemple, qui a plus d'une trentaine de marques présentes à l'intérieur de ce conglomérat, on...
Et t'as des marques comme Kesa, t'as des marques comme quoi d'autre ouais, t'as plein.
T'as des marques qui n'ont peut-être jamais mis les pieds sur le marché russe de leur vie, qui sont des marques peut-être juste franco-françaises et qui sont travaillées qu'ici, ou etc., qui se retrouvent pris dans un appel au boycott, parce que c'est ce qui se passe après sur les réseaux sociaux. On va développer un peu, mais il y a un violent quand même appel au boycott envers ces marques-là. Nestlé, ils se prennent des tweets, et là on voit, on voit que Twitter, c'est plus compliqué à contrôler comme réseau social que Instagram ou Facebook, et on voit des messages fleurir sur Twitter qui sont vraiment assez violents envers la marque Nestlé, le groupe Nestlé et les marques qui la composent. Et du coup, c'est assez intéressant, et c'est là que pour moi déjà se situe une clé de réponse à tout ça. C'est que ça ne peut être qu'une décision, cette décision-là là, dont on parle depuis tout à l'heure et auquel nous, on ne peut pas donner de réponse, ne peut être qu'une décision qui peut être prise à l'échelle d'un groupe. C'est une décision qui peut être prise tout en haut du board de direction d'un groupe, même pas en haut d'une marque, et qui va avoir un impact sur toutes les marques qui composent ces groupes-là. Et ça ne peut pas être le community manager qui va commencer à pouvoir répondre à ces commentaires-là.
Ça, c'est sûr. Justement, les CM, en ce moment, on se retrouve un peu en première ligne. C'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil, notamment du côté des marques composant le groupe Mullier, qui sont là vraiment dans la tourmente. Il semble qu'il y a des consignes internes assez claires qui soient tombées. Plus de publications sur les réseaux, silence radio. Et il semblerait même que cette consigne soit là depuis un petit moment, donc sans doute qu'ils ils pressentaient ce qui allait se produire. Leroy Merlin a coupé ses publications organiques depuis le 7 mars. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que ça fait bientôt 20 jours que la marque ne communique plus avec ses audiences en ligne, plus aucune publication, quand on sait que le rythme de publication est habituellement très soutenu pour ce compte. Decathlon, idem, n'a pas publié depuis le 11 mars. Là aussi, ça veut dire que ça fait fait 15 jours que la marque n'a sorti aucune nouvelle publication. Ouais. On se rend bien compte pour un groupe comme Decathlon, c'est inédit. Le compte d'Auchan aussi est à l'arrêt depuis 10 jours. C'est assez, enfin, ce qu'on est en train de vivre, c'est pris à l'aune de notre métier, c'est aussi historique et aussi très étonnant. Hein. C'est-à-dire ces marques réduites au silence pour éviter, parce qu'elles marchent sur des œufs concrètement. Hein. C'est très complexe. Hein. Et parce que qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Tu l'as dit, eh bien, les appels au boycott hein, et les attaques organisées aussi sur les réseaux sociaux des marques, ils sont énormes. Hein. C'est simple, aujourd'hui, Twitter s'est transformé en terrain miné, hein, littéralement, pour le groupe Mulier. Le nombre de tweets citant les marques du groupe, elle s'est largement emballée. Hein. Et je vais dire même plus grave, c'est tous les signaux de sentiment analysis sont dans le rouge. Qu'est-ce que c'est le sentiment analysis? C'est quand je fais de l'écoute de bruit. Mm. Et que je vais prendre ma marque et voir les mots-clés qui y sont associés. Ouais. C'est ce qu'on appelle de l'écoute de e-réputation. C'est quelque chose qui est surveillé de près hein, par ces grosses marques. C'est quelle est ma notoriété spontanée? Quel est le feeling?
Quels sont les premiers mots qui sortent quand on parle de ma marque?
Exactement.
Tout
hein. Et bien là, je peux te dire qu'actuellement, c'est d'une violence rare. Et forcément, ça veut dire que ça touche la marque. C'est-à-dire que ça empiète, ça, petit à petit, ça entache la marque. Alors là, c'est immédiat. La question, c'est est-ce que ça va être durable? Et c'est sans doute les questions qu'aujourd'hui se pose le board, tu vois, c'est pas juste on arrête de publier et j'ai eu 50 commentaires chiants en dessous de mon post. Ouais. C'est plutôt est-ce que mes marques, elles sont en train de morfler et est-ce qu'elles vont morfler durablement si je fais machine arrière, si je fais pas machine arrière, etc.
Et c'est là où on voit l'impact des réseaux sociaux et comment la communication sur les réseaux sociaux elle peut être aussi ascendante et elle est pas que descendante des marques vers les audiences, entre guillemets. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant vis-à-vis des communautés puisque ces marques-là elles font partie de communautés en ligne, et si ces communautés en ligne rejettent une marque, forcément la marque elle réfléchit à sa prise de décision.
Et ben un bon exemple de ça, c'est Decathlon, hein, Decathlon qui se retrouve au cœur de la tourmente avec effectivement les communautés, notamment outdoor, etc., qui ont eux toutes pris de la parole. Ouais. Je pense notamment à une association, l'organisation des sports outdoor, qui a nommément demandé à Decathlon de se positionner en disant c'est pas admissible la situation. Donc, on sent effectivement qu'au cœur des communautés, c'est difficile de passer. Quelques chiffres intéressants. Le compte Leroy Merlin, je suis allé jeter un coup d'œil au compte Leroy Merlin France hein, sur Facebook. La dernière publication qui date maintenant, donc d'il y a 15 jours, c'est 5000 commentaires sous ce post. 5000 commentaires qui tous, sans exception, font référence à la guerre en Ukraine et à la position du groupe en Russie. Ouais. C'est quand même assez massif. Même chose du côté d'Auchan, même chose du côté de Decathlon. Les commentaires négatifs explosent. Avec parfois, dans le cas de certaines pages, on sent plus personne à bord, hein, plus personne aux manettes, même pas de modération, libre expression. Ouais, et ça, c'est compliqué.
C'est,
hein.
Ça, c'est chaud. Je pense que de toute façon, la seule chose que tu peux appliquer dans ces moments-là, c'est essayer de bien modérer tes pages, de mettre des filtres en place, d'être attentif et de surtout faire remonter les informations à ta direction, tout simplement, pour qu'ils aient des
plaisirs. Qu'ils puissent prendre des décisions, voilà. Et notamment sur le sujet de la réputation de marque. Hein, encore une fois, le sentiment analysis, rapporter des datas là-dessus, de dire voilà ce qui est en train de se produire, l'impact c'est que ça a sur la marque. Hein.
Non, il faut apporter de l'info.
Autre chose, tu l'as dit, il y a une difficulté pour ces géants-là à garder une position de groupe commune en cas de crise. Ouais, et ça, c'est vraiment compliqué. Ça qui joue. Donc, tu as dit, il y a des marques un peu en chapelet qui font partie du même groupe. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Et puis, là, on parle aussi de marques internationales, hein, Decathlon, Leroy Merlin, donc, qui ont du coup des écosystèmes social media qui sont complexes.
Oui, avec beaucoup de marques à l'intérieur. Ouais,
et puis aussi, beaucoup de déploiements pays. Hein. Par exemple, chez Decathlon, chaque pays ou presque a son compte Instagram. Et je suis allé jeter un coup d'œil un peu par hasard au compte Decathlon Suède. Et ben là aussi extrême violence hein, sur les commentaires. Donc c'est pas juste un truc qui est isolé.
Non, et puis après t'as des cultures aussi par t'as des choses culturellement par pays. On sait que par exemple aux États-Unis les marques sont beaucoup plus vite
beaucoup plus attendues
sur ces sujets-là, alors qu'en France moins déjà.
Je suis pas allé voir la Suède pour rien. On sait qu'aussi la Suède leurs liens historiques avec la Russie sont complexes. Je me suis dit tiens, ça serait intéressant intéressant d'aller voir là-bas. Donc évidemment, il y a pas de pitié actuellement pour le CM de Decathlon en Suède. Et puis, je suis tombé aussi sur un truc, et là aussi, c'est très étonnant, c'est une filiale, les filiales et les magasins ukrainiens de Leroy Merlin, eux, ont carrément fait sédition. Hein,
puisque, ils ont récupéré le contrôle de leur réseau.
Leroy Merlin Ukraine a dénoncé ouvertement, hein, sur notamment sur sa page Facebook, sur ses réseaux sociaux, les décisions de sa maison mère, ce qui est quand même ouf.
Fou, ouais.
Sa page Facebook, elle s'est transformée en déclaration d'indépendance, hein, littéralement. Elle a même lancé Leroy Merlin Ukraine, la filiale Leroy Merlin Ukraine, une pétition pour la fermeture des magasins Leroy Merlin en Russie. Donc c'est quand même pas de la blague.
C'est
sur Open Pétition et il y a déjà 15 000 signataires autour de cette pétition qui a été lancée mercredi dans la foulée des déclarations de Volodymyr Zelensky. C'est une situation absolument inédite, ubuesque, et on voit encore une fois que cette histoire de réseaux sociaux, c'est très compliqué.
Parce que qu'est-ce que peut faire Leroy Merlin au final face à ça? Est-ce qu'il veut, il faut qu'il supprime les comptes Leroy Merlin Ukraine? T'imagines le message renvoyé s'ils se mettent à faire ça? C'est très très complexe dans la gestion.
Et puis là, on parle évidemment de communication externe, mais imaginons les enjeux, les challenges qui sont face à ces marques, ces géants de communication en interne. Là où on le sait, effectivement, l'opinion publique, il y a une sorte d'évidence, hein, aujourd'hui dans ces choix. C'est difficile quand t'es un groupe comme ça d'expliquer une décision qui serait complètement impopulaire. Et là, j'imagine la difficulté aujourd'hui des communicants en interne à la famille Mullier pour garder les équipes soudées, qu'il n'y ait pas de phénomène de sédition, de rupture, etc.
Hein. Un sujet complexe. Hein,
exactement.
On n'aimerait pas être dans les pompes de ces dirigeants de boîtes qui vont devoir prendre des décisions fortes dans les prochains jours.
Moi, et j'aimerais pas non plus être CM d'une de ces marques. Ouais, ça ne doit pas être très simple. Donc, on pense à vous, les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre écoute. Ouais. On serait ravis de continuer à échanger avec vous, hein, d'avoir votre point de vue là-dessus.
Sur les réseaux sociaux, être super natif comme d'habitude, sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, Twitter et puis TikTok. Et puis, si vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre tous les matins en direct sur Twitch à 9h aussi. Et puis sinon, laissez-nous une note, un commentaire ou parlez-en autour de vous, tout simplement.
Merci à vous tous, on vous embrasse. Très bon week-end. Salut tout le monde.
Ciao, ciao.
Bye.